L'emprise de l'homme sur la nature est devenue telle qu'elle comporte le risque de destruction de la nature elle-même. Discours de Georges Pompidou prononcé à Chicago sur les problèmes de l'environnement urbain. Georges Pompidou, né le 5 juillet 1911, est un haut fonctionnaire, un homme d'État français. Il devient le Premier ministre du 14 avril 1962 au 10 juillet 1968 et président de la République du 20 juin 1969 à sa mort le 2 avril 1974. Notre devise, tous ensemble pour la réussite, tous concernés par l'avenir de nos enfants, de nos ados.
Chers auditeurs, nous sommes le 3 mars 2022, en nombre restreint. Bienvenue sur Radio Valois-Multien dans l'émission Pédago Rando, animée par l'association Projet Action 60 en partenariat avec Agir ABCD et Énergie Jeune. Ces associations sont représentées par nos fidèles chroniqueurs. Bonjour chers chroniqueurs.
Bonjour.
Notre thème du jour, l'armée de terre.
Non. C'est les potagers dans les écoles.
Ah, les potagers dans les écoles. Bon, voilà. La fiche n'est pas...
Voilà, c'est moi, c'est de ma faute. C'est encore Sylvie, voilà.
Voilà.
Pour cela, nous recevons... Donc là, c'est les bons prénoms. Pour cela, nous recevons Sarah Bonenfant, de la CPIE de Senlis, Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement.
Je crois que Sarah va rectifier quelque chose. c'est pas grave. C'est du CPIE, des Pays de l'Oise.
Des Pays de l'Oise.
C'est pas grave. Qui est situé à Senlis.
Oui. Et c'est, l'action se fait sur toute l'Oise.
Sur toute l'Oise, exactement.
Julien Lefebvre, professeur d'une classe Ulysse, école de cours de Montataire au téléphone avec ses élèves, et Delphine Aesch, accompagnant des élèves de situation de handicap. Bonjour les enfants.
Bonjour.
Il y a une ambiance.
Ouais,
est-ce que vous pouvez nous dire votre prénom et votre classe?
Allez, vous allez passer un par un.
Bonjour, je m'appelle Alice.
Il va falloir parler un peu plus fort parce qu'on n'a pas entendu. Tu peux répéter ?
Bonjour, je m'appelle Alicia, j'ai 11 ans, je suis en CM1.
D'accord, merci.
Bonjour, je m'appelle Mathéo, j'ai 10 ans et je suis en CM1.
Bien.
Je m'appelle Lucas.
Ah, Lucas.
Et je suis un 1.
D'accord,
c'est d'accord, bien.
C'est bon. J'ai 8 ans, je suis un 1.
Ok.
Je suis Mika et j'ai 11 ans et je suis en CM1.
D'accord.
Ah ouais, j'ai 11 ans et je suis en CM1.
D'accord.
Bien.
J'ai 8 ans, mais en CM1. Okay.
D'accord.
Je m'appelle Ethan, j'ai 9 ans, je suis en CM1.
Ethan, oui.
C'est bon.
C'est bon. Alors là, c'est l'enfant Julien, voilà, c'est ça, Julien. Qui a quel âge ?
L'enfant Julien qui a 28 ans et qui s'occupe de tous les élèves.
Bon, c'est bien, merci voilà. Julien. Il y a Delphine à côté de toi, on aimerait bien entendre sa voix.
Oui, bonjour, c'est Delphine, je suis à
ESH. ESH, merci Delphine. Ben voilà, on va peut-être pouvoir un petit peu commencer. Donc on peut dire que... Tu voulais dire quelque chose ?
Bah, oui. J'allais te demander de présenter.
D'accord.
Le
thème du voilà. Mois. Oui, parce le que là, on est un peu bousculé parce qu'en fin de compte, Gérard n'est pas là. Donc c'est Lou qui.
C'est bien.
Bah, tu pourrais te présenter peut-être aussi, toi.
Oui.
Allez, vas-y,
tout à
Lou.
Fait. Eh bien, moi c'est Lou, nouvellement arrivé à Radio Valois-Multien. Je suis passé dans quelques émissions jusque maintenant, et donc je prends avec plaisir les morceaux qui manquent. Dû à l'absence de Gérard donc, dans cette émission Pédalo Rando.
Merci beaucoup Lou. Alors les potagers dans nos écoles, les collèges, les lycées, appelés souvent jardins pédagogiques, ont un succès grandissant d'année en année. Pour l'éducation nationale, il s'agit de l'éducation à l'environnement et au développement durable, ce qu'on appelle le EDD, pour amener nos enfants vers l'éco-citoyenneté. On ressort les gants, les bottes, les outils durant une heure. Voyons ensemble qu'apporte cette démarche ouverte sur la nature. Donc on peut faire une petite histoire du potager hein, très rapidement, parce que sinon les enfants vont s'impatienter. Alors le potager, dit le jardin pédagogique, redevenu à la mode suite à une prise de conscience sur le changement climatique, a fait des émules auprès des professeurs et directeurs des établissements scolaires. Et là, on le voit avec Julien, effectivement, et sa classe qui nous ont contactés et qui, on l'espère, sont heureux de venir.
Qui nous attendent impatiemment.
Impatiemment, voilà. Alors revenons quelques années en arrière où le potager était un cours magistral dans les écoles élémentaires, un enseignement pratique de l'agriculture et de l'horticulture. Il est encouragé en France à partir de 1847, fortement conseillé sous le ministère de Victor Duruy avec la circulaire du 31 décembre 1867, puis rendu obligatoire en 1880. en 1882, facultatif à nouveau, mais resté encouragé et valorisé. À la Première Guerre mondiale, il devient un espace de ressources et perdra son statut pédagogique, puis devenu obsolète avec l'apparition des enseignements tendances tels que les nouvelles technologies, les langues, etc. C'est un savoir-faire ancestral qu'il ne faut pas perdre. Le meilleur moyen serait-il de perpétuer les gestes auprès des jeunes de façon ludique, faire de la théorie, un peu? Faut-il le remettre au goût du jour dans les écoles? Est-ce que tu as vu cette question-là avec tes élèves, Julien? Qu'est-ce qu'ils en ont pensé?
Non, on a vu quelque chose de plus simplifié hein, par rapport,
oui, je me doute,
par
je
rapport
me doute.
À tes questions. Et moi, je pense que c'est important, on a vu avec eux, hein, ils ont tous dit que c'était quelque chose qui permettait de travailler de façon différente et qu'ils ne vivaient pas les choses de la même façon que dans la classe, en fait, pour le coup. Et ce sont des élèves qui n'ont pas forcément l'opportunité, justement, d'utiliser un jardin ou un potager chez eux. On est dans un quartier un petit peu défavorisé où les enfants vivent la plupart du temps dans les HLM. Donc je pense que c'est important justement de faire perpétuer cette tradition justement et de leur enseigner à l'école.
D'accord. Et eux, est-ce qu'ils seraient intéressés si jamais ça devenait obligatoire dans les écoles, cette façon de faire?
Mathéo?
Oui.
Oui.
Ils auraient tous intéressés, oui.
Oui, oui, oui. Bon. D'accord, ben on va passer au suivant parce que c'est vrai, l'historique, ça les intéresse peut-être pas trop. On va voir un petit peu qu'apporte ce potager aux enfants et ados. Donc nous savons tous qu'il est nécessaire d'apprendre à l'extérieur des murs. Hein. Être dehors va permettre de regarder la nature, découvrir où l'on vit, de respirer et sentir les odeurs. La réaction est parfois impressionnante des enfants. Nous, on peut le voir avec Jackie notamment. Alors, ils arrivent très excités et après, ils sont assez concentrés aux tâches demandées. Qu'est-ce que tu as remarqué, toi, Julien? Et après, on va faire parler les enfants.
Moi, justement, j'ai remarqué que ce ne sont pas forcément les mêmes élèves qui se mettent en avant et que les rôles changent. C'est-à-dire que dans la classe, ce sont des élèves qui vont être, par exemple, en difficulté, qui vont justement aider les autres. Et chaque enfant peut apporter sa pierre à l'édifice et chacun peut aider quelqu'un d'autre sur une tâche différente.
D'accord. D'accord. Et en fin de compte, les tout-petits, parce que je vois, tu as fait deux groupes. Dans les tout-petits, quel est leur comportement quand ils sont au potager ou même quand vous venez au jardin partagé, parce qu'il y a un jardin partagé à Montataire. Toi, Jackie, peut-être que tu peux en dire plus là-dessus.
Oui, puisqu'on fait la passerelle entre les potagers dans les écoles et puisqu'on a, on va gérer complètement bientôt un jardin partagé. On a commencé, mais on va gérer bientôt complètement un jardin partagé qui est sous la responsabilité de la mairie. Mais là, donc il y a les deux choses, hein, le potager et les écoles. Bientôt, les classes, notamment Julien, vont bientôt aussi aller au jardin partagé avec des parcelles qui seront dédiées à eux. Donc moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que là, on voit, comme disait Julien, on voit aussi d'autres élèves qui s'intègrent dedans. Et puis, il y a aussi de la convivialité, du partage et de l'échange entre chacun.
Là, on va demander à Sarah, toi qui interviens dans les écoles primaires, les collèges aussi ?
Et lycées aussi.
Et lycées aussi. Alors là, on va rester sur les écoles un peu primaires. Hein. Tu remarques, en fin de compte, quel est ton sentiment quand tu vois ces enfants travailler la terre ?
Généralement, au départ, quand on est avec des publics plutôt urbains, enfin voilà, des enfants qui ne sont pas habitués à aller dans les potagers, au départ, il y a une crainte quand même, ouais, ils savent pas trop comment agir, il y a un peu la peur de toucher la terre, la peur des petites bêtes qui sont dans le sol, qui volent dans le potager, donc ils sont assez sur la retenue, et puis petit à petit, on voit que la soif de découverte prend le dessus en fait, parce qu'à cet âge-là, ils sont curieux de tout, et c'est qui est super, et c'est pour ça que c'est plus facile en fait de les intéresser, et du coup voilà, l'intérêt etc. prend le dessus, et du coup, là, petit à petit, on voit qu'ils s'ouvrent vraiment, qu'ils se détendent,
beaucoup.
Ils s'interrogent, c'est ça. Et ils vont aussi beaucoup découvrir par eux-mêmes. Enfin, après, c'est peut-être par la pédagogie que je mets en place, mais c'est vraiment ça. Beaucoup plus librement, ils vont se permettre de découvrir par eux-mêmes et de moins demander sans arrêt, est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça. Ils commencent à être beaucoup plus autonomes.
Julien, tu peux poser quelques questions puisque tu es sur place. Toi, tu vas voir exactement comment les enfants réagissent. Je te laisse la parole. voir un petit peu ce qu'ils aiment en fin de compte au niveau du potager. Est-ce que c'est nettoyer le potager, faire les semis
Il n'y a pas de souci. Allez, Luca, on commence. Toi, qu'est-ce que tu aimes au potager ?
Travailler.
C'est bien.
C'est mieux que de faire des exercices de mathématiques ou de français.
Bah, est-ce qu'ils ont aimé la dernière fois ? Il y a peu de temps, on a fait des semis dans la classe. Donc, est-ce qu'ils ont aimé ?
Oui. Vous avez dit que vous aimez les semis, hein. Là, ce qu'on a planté.
Qu'est-ce que vous avez fait, les enfants ? Oui, vous. Alors, nous, c'est notre petit lien avec l'école. C'est le jardinier Marceau. Il vous a donné un petit exercice à faire. C'était quoi ?
J'ai vu un plan qui poussait.
Qu'est-ce qu'on a fait avec les semis ? Mathieu, vas-y, parle, raconte ce qu'on a fait avec les semis.
On les a plantés, on a attendu qu'ils poussent.
Ils ont déjà poussé, là ? Parce que ça fait pas longtemps, ça fait une semaine.
Ça fait à peu près une semaine, mais c'est... Oh,
ça a poussé ou pas, David ?
Oui.
Ah, ça a poussé, vous avez pris des photos ?
Oui, on a mis de l'eau.
Ah, vous les arrosez, d'accord, parfait. Donc. Et vous aimez bien, c'est comme des travaux manuels en fin de compte. Vous aimez faire ça ou qu'est-ce que ça vous apporte ? Vas-y, Julien.
Qu'est-ce que ça nous apporte ?
Du bonheur.
Du bonheur, oui. Et encore ?
On parle bien.
Mm-hmm.
Là, Mika, vas-y, au lieu de souffler à voix.
Allez, Mika.
C'est vraiment de la joie. Après, c'est amusant.
C'est amusant et après on n'a pas entendu.
Il faut après, on s'amuse à planter des choses.
Ah. C'est comme
récré.
Ah, c'est comme une récré. Ah. Alors, c'est quand même mieux qu'une récré. On apprend plein de choses là.
C'est vrai que vous êtes à l'extérieur. C'est déjà ça par rapport à la classe.
On apprend sur les insectes.
On n'a pas entendu.
Sur les insectes.
On apprend sur les insectes.
Ah, voilà, parce que effectivement, quand on parle de potager, on a l'impression qu'il y a que le semis, la plantation, etc. On observe quand ça pousse. Mais qu'est-ce qu'on a mis dans le potager de l'école Vous vous en rappelez ?
Alors, qu'est-ce qu'on a mis dans le potager, Mélinda ? Qu'est-ce qu'on a planté ?
Des haricots.
Des haricots. Oui. Qu'est-ce qu'on a planté d'autres ?
Alors ?
Des tomates.
Ouais. Ça, c'était l'année dernière, hein, c'est pas encore maintenant. Voilà.
Il était là l'année dernière.
C'est pour oui, ça. C'est pour ça, oui.
Des fraises.
Il y a des fraises, oui, que vous avez eues.
Des quoi ?
Est-ce qu'on a planté des pommes ?
Non.
Non, elle se trompe avec le jardin partagé où il y a des arbres fruitiers,
oui,
effectivement.
Oui, au jardin partagé, on a des arbres fruitiers.
Des carottes.
Oui.
Allez, ça. Des cornichons, des petits.
Oui, il y avait ça aussi.
Tiens, on a eu des petits pois.
Oui,
des petits pois. Oui. Et il n'y a pas eu des aromates.
Si, on a mis des plantes aromatiques aussi.
De la salade. Oui. Est-ce qu'il y a eu des herbes, des aromates qu'on a plantées ?
Oui.
Vous saviez que vous aimiez bien manger comme ça dans le jardin quand vous y alliez ?
Des fraises.
Oui, ça.
Alors ?
Ah, il y avait des potirons, oui.
Oui, il y avait des potirons. D'ailleurs, après, vous avez goûté aux potirons, d'ailleurs.
Vous avez mis aussi des hôtels à insectes et des mangeoires et des nichoirs pour les oiseaux.
On ne vous a pas entendu.
Des citrouilles, on en a fait de la soupe.
Ah oui.
Et de la soupe.
Oui.
On en a fait de la soupe.
Oui, parce qu'après, vous utilisez les légumes aussi pour faire de la cuisine.
Oui, du coup, on a fait une recette tous ensemble.
Voilà.
Du coup, en classe, et on a fabriqué une soupe aux potirons.
Une soupe aux potirons. Ils ont aimé ou pas ? Parce que c'est.
Vous avez aimé ou pas ?
Bon, bah, alors on recommencera alors.
Alors, bizarrement, ils ont tous aimé ça.
Ah. Bon, bah, alors on recommencera cette année à mettre
de
potirons. Voilà, oui.
Mais vous avez pu voir aussi avec les mangeoires et les. Observer les insectes et autres, les oiseaux.
Jackie vous parle des mangeoires et des nichoirs là, pour les oiseaux.
Et puis les hôtels à insectes que vous avez mis.
On avait mis des graines dedans pour oiseaux.
Est-ce qu'ils sont venus les manger ?
Oui. Ah. Et
puis
on avait mis des cacahuètes.
Ah ben
non. Oui, alors, oui, c'est vrai, avec les cacahuètes, oui. On avait fait un collier de cacahuètes il y a à peu près 2-3 ans. Oui. Ça les avait énormément...
C'était avec la CPIE,
effectivement.
C'était avec la CPIE.
J'étais pas encore là.
Voilà. Et puis,
on avait fait toute une journée.
Toute une journée.
Et puis dans la fabrication Comment ça s'appelait ? Les boules de graisse.
Les boules de graisse, ça c'était spécialement avec des maternelles, voilà. Parce qu'on trouvait que c'était plus simple. Et les colliers de cacahuètes, c'était avec des écoles primaires, parce que c'était un peu plus compliqué. Et c'est vrai que ce genre de travaux manuels, ça les avait énormément amusés. Et dites donc, qu'est-ce qu'on a mis aussi dans le potager ? On n'a pas mis un truc vert, là, qui est carré. Ça vous dit quelque chose ? Non ? On y met les déchets dedans.
Ah oui.
Oui, voilà. Oui. Super.
Est-ce que quelqu'un est capable d'expliquer ça?
En fait, c'est une petite boîte où on met des mauvaises herbes et les vers de terre sous les insectes vont venir les manger et ça s'appelle du recyclage.
Ah.
Ils ont bien pris leur leçon. Hein.
Oui, ils ont bien.
T'as révisé, Julien, non?
C'est bien.
Après, je voulais savoir tout à l'heure, c'était intéressant ce que tu disais, Julien. C'est vrai que ça leur apprend à travailler en groupe. Parce qu'on fait des ateliers aussi aquarelle, mais l'atelier aquarelle, c'est plus personnel. C'est vrai que là, on voit quand les enfants jardinent, c'est plus en groupe. Et les rôles de chacun, c'est intéressant de voir le fait de travailler en collectivité ensemble. Bon, c'est pas trop compliqué de faire les groupes. En général, ils s'entendent bien. Est-ce que tu te rends compte qu'en fin de compte, il y a plus d'entraide du coup au sein de la classe, même pour d'autres exercices en maths, en français, etc. Est-ce que tu penses que ça leur permet de plus se respecter et de mieux s'entendre ou pas ?
Je pense que justement, oui, ça leur permet en fait d'être dans un autre environnement. Comme tu disais, le projet aquarelle, du coup, en soi, il y a peu d'interactions. Ils n'échangent pas forcément entre eux. Et là, le jardin, en fait, ils sont dans un autre domaine. Et du coup, je pense que ils n'ont pas le même rôle, la même place. Ils vont aller les uns vers les autres parce que d'un seul coup, il y en a un qui va voir une fraise et donc tout le monde va venir avec lui. Enfin voilà, ils vont pas se poser la question d'avec qui ils travaillent, alors qu'en classe, par moment, si je les mets en groupe, ça peut être « Ah non, je veux pas travailler avec lui ou avec elle ».
Oui, excuse-moi, mais si tu les mets, admettons, en groupe au niveau du jardin ou du potager, et tu vois en classe, il y en a deux qui ne s'entendent pas tellement bien, qui veulent pas travailler ensemble, est-ce que ça va faciliter le fait d'être à l'extérieur, qu'ils travaillent plus ensemble et qu'ils s'écoutent?
Justement, ouais, la posture change complètement. En fait, ils vont pas se poser la question là. Ils vont être dans autre chose. En fait, pour eux, ça va pas être forcément un travail à proprement parler. Et forcément, ils savent quand donc il y a un écart d'âge en fonction des élèves. Là, l'écart d'âge ne se fait pas forcément ressentir, parce que forcément en classe, il y en a qui ne savent pas encore lire. Et donc, ça va être, ah, je veux pas être avec lui parce qu'il sait pas lire. Et là, pour le jardin, les compétences, elles sont complètement remises. Remise en question, je veux dire. Il y a même des plus petits qui vont savoir faire plus que les plus grands.
D'accord. Et donc, c'est pareil, quand tu m'avais envoyé une photo là, des petits semis que tu avais fait au niveau des pots. Donc, du coup, ce sont les plus grands qui vont marquer, qui vont afficher le nom du légume qui est en train de pousser.
Oui, c'est ça. Les plus grands, par exemple, vont pouvoir dicter aux plus petits ou alors ils vont pouvoir épeler les mots aux plus petits. Voilà.
Encore que Julien, la fresque là, avec Chantal qu'on va... On a le projet de faire, hein, parce qu'il y a le projet de faire une fresque, et j'espère qu'au beau temps, quand ça va s'améliorer au niveau temps, il y a cette fresque qu'on veut faire sur la façade, juste devant le potager. Et là, c'est quand même quelque chose qui va rassembler tous les enfants pour créer cette fresque sur la façade du potager.
Moi, j'ai quand même une question à poser à Sarah qui écoute attentivement les enfants. Est-ce que tu penses que le fait d'être dehors, de voir autre chose, parce que comme le disait Julien, souvent les enfants n'ont pas de potager ou les grands-parents n'ont pas non plus de potager, est-ce que ça leur permet de déconnecter quand même là des écrans et de leur apporter un plus ?
Oui, bah déjà c'est certain parce qu'ils sont dehors, donc pas d'écran, donc voilà,
il y a
pas
la tentation quand même. Hein.
Oui, oui. Non, voilà. Mais oui, c'est, enfin pour moi c'est essentiel et ça les aide vraiment. Enfin moi je le constate quand je les vois arriver des fois, comme tu le disais justement, assez excités, donc excités parce qu'il y a une sortie, il faut dire ce qu'il y a aussi, hein, parce que ça change du quotidien. Mais certains assez tendus aussi des fois, peut-être des fois aussi en conflit avec ses camarades. Et il y a vraiment cette détente-là qui vient une fois qu'ils y sont. Parce que déjà, on les sort du contexte habituel. Du coup, il n'y a plus toute cette pression qui peut être liée à l'école, etc., parce qu'il y en a énormément sur leurs petites épaules quand même. Et puis simplement être en contact avec la nature, en fait, ça les détend forcément. Il y a une étude qui est sortie il y a quelques années maintenant sur le syndrome de manque de nature pour les enfants. Où en fait, ils ont comparé deux classes enfants de mêmes horizons, de mêmes âges, etc. Des enfants qui n'allaient quasiment jamais en contact avec la nature, donc ils prenaient aussi, ça comptait, les parcs, les jardins, les potagers, etc. Et d'autres enfants qui, eux, étaient minimum une heure par jour, au moins au potager ou dans un parc ou dans une forêt. Et ils ont regardé leurs résultats scolaires. Et c'est édifiant.
Ça améliore.
Ça fait peur aussi. Ils ont plus de concentration, les résultats scolaires sont meilleurs, ils communiquent beaucoup mieux, c'est des enfants plus calmes, plus épanouis. Et en fait, on constate qu'actuellement, nos enfants souffrent du syndrome de nature parce qu'on les sort plus, ils passent de la salle de classe à la voiture et au salon de la maison devant la télé, quoi.
Oui, c'est ce qu'on avait déjà remarqué. Moi, je vois aussi le jardinage, Julien, c'est très bon pour leur motricité, hein. L'apprentissage des gestes à faire. Après, bon, c'est vrai que ça devient plus ou moins machinal, malgré que ce soit un petit peu compliqué au départ. Est-ce que ces activités manuelles, est-ce que tu te rends compte au niveau des cours, je pense surtout aux cours d'écriture ou autres, hein, est-ce que ça a facilité les choses ou pas du tout?
Je pense que je ne suis pas actuellement capable de mesurer les évolutions par rapport à la motricité, mais c'est sûr qu'il y a des élèves qui se mettraient une certaine pression en classe, j'ai envie de dire, par rapport à la tenue du crayon ou autre. Et le fait d'être dehors dans le jardin, on sait que si on renverse de la terre, etc., ou si on renverse de l'eau, c'est pas très très grave. Donc je pense qu'il y a moins de pression et du coup il y a plus de facilité à effectuer les tâches. Et justement, d'un point de vue motricité, je pense que c'est intéressant de travailler dans le potager.
Tout à l'heure, il y a une élève, je crois que c'était Awa, qui disait effectivement qu'on mettait des déchets dans le compost et c'était du recyclage. Il faut savoir aussi que le potager, c'est super pour le recyclage. Admettons les boîtes d'œufs, on peut mettre des petits semis dedans. Là, vous avez fait quelque chose dans un sac plastique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous expliquer ce que vous avez fait en fin de compte dans un sac plastique? Ah ouais, peut-être.
Michael, peut-être pour changer.
Ah oui, Michael.
On a planté des graines, des graines d'haricots.
Regarde, vous les avez mis au mur. Je crois que vous les avez accrochés au mur, d'ailleurs. Amis, ouais. Alors regarde bien ce que vous avez fait.
On a planté des semis. On a pris du terreau.
Oui. Tu l'as mis où, le terreau?
Dans le sac plastique.
Voilà, et le sac plastique, il est transparent, oui.
On a mis des graines.
Voilà, vous avez mis des graines. Vous avez fait attention de les mettre de façon à ce que vous les voyez pousser dans le sac plastique, c'est ça?
Oui.
Ah, il est parti.
Oui.
Et vous l'avez arrosé?
Oui.
D'accord. Est-ce que ça vous a... Pardon, est-ce que ça vous a appris aussi qu'est-ce qu'il fallait prendre comme outil pour jardiner?
Qu'est-ce qu'on a appris comme outil pour jardiner? Belinda.
Un seau.
Une pelle.
Oui. Ouais.
Une pelle.
Un râteau.
Oui.
Une bâche.
Ah oui, oui, on a mis des bâches, effectivement.
Oui,
quoi d'autre?
Vous mettez l'eau dans quoi?
L'arrosoir.
Ah oui, parce que ça, l'arrosoir, ça se bat hein, pour pouvoir arroser. Moi, j'aimerais entendre un petit peu aussi Delphine, en fin de compte. Comme Delphine, tu es AESH, tu suis vraiment les élèves. Est-ce que tu vois que cette façon de faire ces ateliers, est-ce que ça leur a apporté beaucoup de choses à ton niveau? Est-ce que tu as remarqué certaines choses ou pas? On n'entend pas du tout, Delphine. S'il te peut parler plus fort.
Ils sont plus épanouis au potager qu'en classe.
C'est bizarre. Oui, vas-y, Jackie.
Eh ben, surtout, peut-être, bon, là, ça va bientôt, on va bientôt commencer. Hein, là, vous y allez peut-être, je crois, dans 15 jours. La sortie aussi, en plus, au Jardin Partagé, bon, c'est une sortie où vous avez aussi une promenade à un moment de sortie d'extérieur de l'école pendant un quart d'heure, 20 minutes hein, de marche. Donc, et après, vous allez dans le grand jardin. Donc ça, est-ce que ça va vous... Est-ce que les enfants ont une motivation ? Est-ce qu'il y a une appréhension ? Comment ça va se passer pour eux ? Est-ce qu'ils savent comment... est-ce que vous en avez déjà parlé ?
De cette sortie ?
On n'en a pas encore parlé du jardin potager cette année.
Pas encore parlé ?
Moi, j'ai une autre question à poser aux enfants. Le fait de travailler comme ça la terre, est-ce que ça vous apprend à respecter la nature et aussi à se rapprocher d'elle et de mieux la connaître ?
Oui.
Est-ce que ça vous donne envie, justement, de sortir dans la nature ?
Oui.
D'aller la voir. Ah bon, alors qu'est-ce que vous pourriez faire, alors, par exemple ?
C'est bien que vous appelez une
question. Qu'est-ce que vous pourriez faire, justement, pour aller regarder la nature, par exemple ? Qu'est-ce que vous pourriez faire ?
On regarde ce qui pousse.
Oui.
Se promener dans la nature.
Et où dans la nature ? Qu'est-ce que tu pourrais aller te promener où, en fin de compte ?
Promener où ?
Dans les champs.
Oui, dans les champs, très bien.
Parce que juste en face, vous avez un bel endroit, juste en face.
Il y a la forêt aussi.
Vous avez la coulée verte qui est vraiment bien.
Qu'est-ce qu'elle a dit ? J'ai pas compris.
Alors qu'elle a dit que dans la forêt, on peut trouver des sangliers et des renards.
C'est vrai. Oui. Ce qui est intéressant dans la forêt, c'est qu'on voit les changements de saison, en fin de compte. C'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'il y a autre chose sur lesquelles ils veulent intervenir, les enfants, nous dire quelque chose sur le potager
Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez dire qu'on n'a pas dit ?
Un champignon.
Il y a aussi des champignons dans la forêt.
Oui. Est-ce qu'ils ont hâte de commencer ?
Est-ce que vous avez hâte de commencer d'aller au jardin partagé ?
Alors, je vous préviens que le premier atelier, ça sera nettoyage.
Ah ben là, on a préparé hier déjà.
Alors ça, le nettoyage, j'ai déjà remarqué que vous n'aimez pas trop. Hein.
On a préparé votre parcelle hier et il y a de quoi faire.
Alors, nettoyage, on va nettoyer les papiers, etc., qui peuvent traîner
Puis désherber.
Dans les jardins partagés.
Voilà, et surtout désherber.
Il y a du désherbage. On l'a préparé juste la parcelle, mais après, vous allez pouvoir travailler.
Alors, justement, dans votre potager de l'école, est-ce que vous avez déjà commencé à nettoyer le sol ou pas du tout ?
Est-ce qu'on a nettoyé le potager ou pas du tout ?
Oui, on l'avait nettoyé.
Qu'est-ce que vous avez fait pour le nettoyer ? Il faut parler plus fort parce qu'on ne vous entend pas, sinon Luc, le technicien, il va finir par rouspéter. Hein.
Pour le nettoyer, qu'est-ce qu'on a fait pour le nettoyer ? Ah, ouais.
On l'a déterré, on a enlevé les mauvaises herbes, okay. On les a mis dans le compost, on a enlevé tout ce qui ne poussait pas, tout ce qui était mort. Des plantes mortes.
Et on avait mis des fleurs.
On a ramassé les déchets.
Bien. C'est bien.
C'est bien. Et les fleurs qui ont été mises l'année dernière, elles en sont où ? Elles ont poussé ou vous avez regardé ?
Elles sont mortes.
Ah ben va falloir recommencer, mince alors.
On va recommencer, sérieux.
C'est ça la nature, hein. C'est compliqué, hein, de toute façon. Hein.
Ah, puis le fait de ne pas être là aussi pendant les vacances, ça n'aide pas beaucoup.
Oui, c'est vrai, c'est le gros souci.
C'est une réflexion
Une réflexion sur le mois d'août et du mois de juillet. Oui. Bon, c'est souvent Jackie qui passe effectivement pour arroser.
Il y a des choses à réfléchir là-dessus.
Ok. Est-ce que vous avez autre chose à nous dire ou pas du tout, les enfants ?
Moi ?
Non, ça y est ? Qu'est-ce que ça vous a fait de passer à la radio ?
Oui.
Qu'est-ce que ça vous fait de passer à la radio ?
Bien.
T'aimes bien ?
C'est bien parce que je suis
C'est bizarre parce que tu n'es jamais passé à la radio. Attends.
Et
tu n'es jamais passé à la radio non plus. Ah ouais, qu'est-ce que ça fait de passer à la radio?
Bah, je suis contente, je suis excitée. On fait du n'importe quoi un peu de
Ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir vous réécouter quand ce sera en podcast. Et vous vous rappelez le nom de la radio?
Bien. Est-ce que vous vous souvenez du nom de la radio?
Non.
Ah. Alors
oui.
Alors, comment vous allez en parler à vos parents, à papa et maman, si vous ne dites pas le nom de la radio? Ah, c'est Radio Valois-Mulcien. Voilà. Donc là, je ne sais pas si vous allez pouvoir rester avec nous, mais on va mettre l'intermède musical. Alors la chanson s'appelle « La vie, c'est comme un jardin », donc c'est très bien écouté. Et c'est les Enfantastiques, je vais y arriver, qui la chantent. Donc vous pouvez rester avec nous pour l'écouter.
Oui.
Bon, allez, on y va.
La vie, c'est comme un jardin, au début un petit rien, que l'on sème quand il fait beau, et qui germe bien le chaud. La vie, c'est comme un jardin, une graine qui a besoin de soleil, de terre et d'eau, ce qu'il faut. La vie, c'est comme un jardin, faut la prendre à pleine main, qu'il y ait des bas et des hauts, quelle que soit la météo. La vie, c'est comme un jardin, toujours bien en prendre soin, c'est la nature en cadeau, et c'est beau. Il y a des jours où on a plutôt la main verte, d'autres fois comme un pois chiche dans la tête. Soit on traîne et on ne marche qu'à la carotte, soit on veut gagner la course à l'échalote. Certains pensent que l'oseille c'est le paradis, il y en a d'autres qui se germe bien de chaud. La vie, c'est comme un jardin, une graine qui a besoin de soleil, de terre et d'eau, ce qu'il faut. La vie, c'est comme un jardin, faut la prendre à pleine main, qu'il y ait des bas et des hauts, quelle que soit la météo. La vie, c'est comme un jardin, toujours bien en prendre soin, c'est la nature en cadeau, et c'est beau. Timide, toujours rouge comme une tomate, ou bavard à raconter plein de salades. Amoureux avec un gros cœur d'artichaut, malchanceux à marcher sur tous les râteaux. Chacun fait comme il peut dans son potager, tantôt fertile, tantôt plein d'herbes et d'épines. Au bout du compte, on finit tous par manger l'épice en lit par la racine. La vie, c'est comme un jardin, au début un petit rien, que l'on sème quand il fait beau, et qui germe bien de chaud. La vie, c'est comme un jardin, une graine qui a besoin de soleil, de terre et d'eau, ce qu'il faut. La vie, c'est comme un jardin, faut la prendre à pleine main, qu'il y ait des bas et des hauts, quelle que soit la météo. La vie, c'est comme un jardin, toujours bien en prendre soin, c'est la nature en cadeau, et c'est beau. C'est la nature en cadeau, et c'est beau. C'est la nature en cadeau, et c'est beau.
C'était les Enfantastiques, hein, une donc petite chanson sur le jardin. Alors, faut savoir que c'est une chorale d'enfants qui interprète ces chansons en 5 langues qui ont été écrites par Monsieur No. Et donc, ils font des clips. Il y a plein de vidéos. Donc, c'est un répertoire que de nombreuses écoles écoute en France, Belgique, Suisse, Québec. Voilà, donc c'était juste pour faire un petit clin d'œil. Et c'est un projet pédagogique, artistique, citoyen et solidaire. Voilà. Donc, ben, je ne sais pas, on va peut-être se quitter, nous, Julien et les enfants, et puis Delphine.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir. À bientôt. Bientôt.
À bientôt.
Et soyez sages. Soyez sages. Allez, au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Alors, notre thème du jour était les potagers dans les écoles. Pour cela, nous avons reçu Sarah Bonenfant du CPIE des Pays de l'Oise, Julien Lefebvre, professeur d'une classe Ulysse, école des cours ou de cours de Montataire, au téléphone avec ses élèves, et Delphine, qui est une accompagnante des élèves en situation de handicap.
Voilà, donc on n'a pas entendu beaucoup Sarah lors de cette première partie, hein, et pour cause. Hein, les enfants étaient très intéressés pour passer à la radio en réalité. Hein. Donc on va parler un petit peu du potager qui est à la mode. Hein. Depuis quelques années, un retour en force du potager dans les établissements scolaires a permis de créer des passions, même voire peut-être des vocations chez les élèves. Une nouvelle action pédagogique pour inciter aussi une réflexion sur le mieux manger, qui fait suite à la semaine du goût dans les écoles. Et la perspective est de montrer qu'il est important de connaître ce que nous mangeons et ce que nous mettons dans nos assiettes. Alors, on constate souvent que les enfants ne connaissent pas les légumes, surtout les légumes anciens. Nous, on avait fait un atelier spécial sur les légumes anciens. Et pour eux, les légumes se trouvent sur les étals des boutiques, parfois dans des barquettes ou directement dans les assiettes. Pour eux, découvrir la croissance d'un légume reste une découverte, peut-être même, on peut dire, une magie. Alors, en général, moi, je voulais savoir, au niveau de la CPIE, Sarah, qui contacte la CPIE ? Plutôt les profs, les directeurs d'école ou même parfois peut-être des mairies ?
Alors, pour les projets potagers dans les écoles, c'est surtout les enseignants qui nous contactent. Les enseignants, donc soit une classe, soit le directeur directement de l'école, pour nous les aider à mettre en place des projets potagers.
Est-ce qu'ils sont inquiets, en fin de compte, parce que le fait de créer quelque chose, est-ce que ça les inquiète en se disant, là, on n'aura pas le temps dans le programme
Et est-ce que c'est en évolution en ce moment?
Oui, alors, forcément, ça les inquiète. Alors, soit ça les inquiète pas du tout, et nous, on les amène à se poser un peu la question quand même. parce qu'ils n'ont pas forcément les connaissances, et ils s'imaginent que ça va pousser comme ça, ils s'entretirent comme ça. Soit justement ils sont très très angoissés, on est là pour dire bon vous inquiétez pas, on va vous accompagner. Notamment là en fait on a démarré un très très gros projet avec le WWF France.
Ah oui.
En fait on est plusieurs structures d'éducation à l'environnement en France qui avons entamé un projet avec eux l'année dernière pour monter des potagers scolaires. Donc nous on l'a fait au collège de la Fontaine des Prés.
Et il est où ce collège ?
À Senlis.
Senlis, d'accord.
Et du coup, donc il y en a d'autres qui l'ont fait. Donc il y a Angers, il y a à côté de Marseille, il y a Grenoble, il y a sur Paris, il y a un peu partout. Et puis, en fait, la première année, c'était vraiment mettre en place le potager et les accompagner donc dans la faisabilité du projet, construire le potager en lui-même et commencer à cultiver. Et là, en deuxième année, en fait, on vient parler d'alimentation via le potager. Et surtout, en fait, justement, on est en train de travailler. Donc là, la semaine dernière, on était en deux jours de séminaire sur Paris sur ce sujet-là, avec divers professionnels, pour en fait essayer de mettre en place une plateforme, un outil qui sera à disposition des enseignants et des structures accompagnantes pour mettre en place des potagers scolaires, en fait, essaimer ces projets-là et leur faciliter les choses. Parce que, oui, il y a plein de contraintes qu'on va rencontrer quand on va mettre des potagers en place. Il va y avoir des contraintes financières, il va y avoir des contraintes techniques, il va y avoir la contrainte de l'été, on en parlait. Mm-hmm. Donc, du coup, nous, donc là, actuellement, on le fait et on est en train de travailler avec d'autres pour pouvoir rendre ces connaissances disponibles à tous, en fait. Donc vraiment apprendre à construire un projet de A à Z en se posant toutes ces questions qu'on ne se serait pas forcément posées. Et surtout, on vient donner les solutions, parce que c'est bien de se poser les questions, mais nous, on vient apporter les solutions. Comment faire concrètement tous les jours pour que le potager, il soit viable et que ce soit un vrai potager pédagogique, que ça ne meure pas tous les ans et qu'on est obligé de recommencer.
Voilà, c'est ça, oui. C'est ça, tout à fait.
Justement, est-ce qu'il faut aussi inclure tous les acteurs qui sont autour ? Notamment les parents,
oui.
les structures aussi, les communes.
Et puis il faut surtout que le professeur soit motivé. Parce que vous faites combien d'ateliers par mois, par semaine, en fin de compte,
alors,
pour aller les aider ?
Ça dépend vraiment. L'année dernière, à plus près, il y avait eu le contexte Covid, donc c'était pas moi, mais c'était ma collègue. Là, il y avait eu un atelier par semaine avec un club potager. Mais là, c'était vraiment sur ce gros projet-là. Après, on a intervient dans d'autres écoles de façon plus ponctuelle, où on vient faire vraiment une grosse séance pour lancer le projet, et après l'enseignant est en autonomie.
Là... Alors, quand il est en autonomie, vous lui avez donné des actions à faire, ou alors il fait comme il le sent?
C'est soit l'un, soit l'autre.
Soit l'autre,
c'est
voilà.
Selon si l'enseignant est à l'aise avec le sujet, on vient lancer le projet, et puis après il dit bon, moi je maîtrise un peu, c'est bon. Il y en a certains qui sont pas très à l'aise, où là on va leur donner comme une sorte de calendrier, bon ben voilà les différentes étapes qu'il va falloir suivre, etc. Et après, bien évidemment, oui, ça se fait pas tout seul. En fait, c'est notamment dans les recommandations et dans l'outil qu'on va créer, ce qu'on va mettre aussi, c'est que il faut être très motivé. C'est la motivation qui fait tout. Mais pas motivé tout seul. Il faut avoir une équipe, l'équipe pédagogique derrière. Parce que si on est tout seul, on se fatigue. Et puis, il faut trouver d'autres personnes ressources. Donc, de toute façon, dans les écoles publiques, hein, de toute façon, ils ne peuvent pas faire un potager sans autorisation de la commune. Donc, de toute manière, voilà. Mais au-delà d'une simple autorisation, en fait, nous, on les invite et on les aide parce que ce n'est pas forcément évident. Nous, on est habitués à travailler avec les communes et les communautés de communes, les enseignants, pas forcément. Donc, on est là aussi pour faire ce lien, les aider à présenter le projet, les aider à savoir qui contacter aussi. Voilà, parce que par exemple, les services espaces verts vont être une grosse ressource pour mettre en place le potager. Ils vont apporter du broyat, ils vont apporter du compost.
Du terreau, etc. Alors, oui,
sauf que c'est un peu plus... Enfin, maintenant, on se voit aussi que dans certains endroits... Hein, alors, même s'ils ne sont pas, comment dire... Même s'ils ne sont pas contre, mais il y a beaucoup. On voit que de plus en plus, les services espaces verts, ils ont beaucoup de contraintes à côté. Oui. Et c'est vrai que nous, on essaye aussi d'avoir... Une indépendance, enfin d'essayer de pas trop, même si on a des liens, on essaye d'avoir toujours des liens avec eux, mais en essayant le plus possible de travailler indépendamment.
Ça, parce mais que quand il y a la possibilité, après, c'est hyper intéressant.
Voilà, quand il y a la possibilité, quand à certains moments il y a la possibilité, bah, je crois que c'est plus facile de le demander à certains moments de travailler avec eux sur un lien de quoi que ce soit. Mettons d'amener du compost, enfin pas du compost, du broyat, du terreau ou autre. Oui. Que nous, on a essayé de faire ça avec la mairie de Montataire. Et ça marche bien pour l'instant, c'est d'essayer de les utiliser vraiment à des moments donnés plutôt que de les utiliser, leur demander le temps, constamment.
Ah oui, quand je disais les partenaires, oui, bien voilà. Évidemment, c'est ça. C'est par exemple, je vais avoir besoin de broyat de bois pour mettre sur mon sol. Mais je vais demander une livraison.
Oui.
Et voilà, quand je dis voilà, mettre à contribution, généralement, en fait, ils ne sont pas là sans arrêt, c'est qu'ils viennent une ou deux fois dans l'année à des moments stratégiques.
Parce qu'on avait vu, nous, on a vu, notamment, j'avais discuté avec les espaces verts et le responsable, c'est qu'il y a des. Bon, maintenant, ça va. Mais il y a des années et des années, il y a notamment des potagers qui s'étaient mis en place, mais...
Il faut un suivi.
Malheureusement, il s'était aperçu que c'était les services espaces verts qui s'en occupaient plus que les enseignants ou autres. Donc, c'est pour ça que c'est périclité, après.
C'est pour ça que nous, on les accompagne aussi.
C'est pour ça qu'il faut une structure à côté qui soit là pour justement encadrer les choses.
Comme tu le disais tout à l'heure, déjà, il faut un suivi et après, recommencer tout l'année d'après parce que rien n'a été fait pendant les vacances et tout est mort. Merci. Par contre, moi, j'ai une question à poser. Quelles sont les bases pour mettre en place un tel projet? Admettons, il y a un prof qui vient. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Qu'est-ce que tu vas poser comme base, en fin de compte?
Alors, il y a trois gros points principaux qu'il faut bien identifier. Déjà, c'est l'espace. Tout simplement, avoir un espace défini. Alors après, on se dit, bien évidemment, l'enseignant de contact, il a un espace. Oui, mais en fait, des fois, l'espace, c'est pas...
Ne convient pas,
d'un point de vue de l'exposition. Ou tout simplement, là, c'est le cas, par exemple, au lycée. Il n'y a qu'un espace disponible. Sauf qu'en fait, ça a été fait avec de la terre de remblai. Donc en gros, s'il y a 2-3 cm de vraie terre, c'est extraordinaire. Après, c'est que du caillou de remblai. Donc du coup, là, nous, eux, ils s'étaient imaginés faire le potager là, je leur dis, là, c'est pas possible. Donc c'est les conseillers sur comment faire pour effectivement mettre un potager ici. Donc voilà, apporter un peu cette expertise et ce regard sur la faisabilité du projet. Après, deuxième point, c'est vraiment la motivation, on insiste sur ça parce que nous, notre but, c'est d'être là pour accompagner, mais si demain, on a 70 écoles qui nous demandent de les accompagner, on ne peut pas toutes les accompagner main dans la main.
C'est notre but aussi.
Voilà, donc en fait, le début du projet, la première phase, c'est être là vraiment en co-construction, donc les aider à se lancer, et après leur donner tous les outils pour leur lâcher la main petit à petit. D'où la création aussi de cet outil avec le WWF pour faciliter ça, en fait. Comme ça, ils auront une ressource en deux clics, ils pourront tout avoir. Et la troisième, donc motivation, voilà, qu'ils soient eux très motivés, mais qu'ils arrivent aussi à motiver leurs collègues, parce qu'on l'a vu, hein, quand il y a un seul enseignant, rapidement ça peut être fatigant, épuisant, et quand il y a un seul enseignant qui se motive, à chaque fois le potager ça échoue. clairement. Donc il faut à minima au moins avoir sa direction derrière soi qui nous soutient. Et après, si on arrive à modifier un ou deux autres collègues qui participent avec nous au projet, c'est bien.
Mais est-ce qu'il n'y a pas, là on le disait, est-ce qu'il n'y a pas la problématique aussi des espaces? Parce que nous, on voit dans certaines écoles où on nous demande, mais on peut pas. Les espaces, déjà nous, ouais. Bon, après on est petite à structure, mais c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y a très peu, pas beaucoup d'espace au niveau vraiment possibilité de potager dans les écoles.
Même voire pas du tout, parce que tout
même
est
béni. Alors après, on peut faire un potager avec des bacs, tout
oui,
simplement.
Oui, mais c'est après, ça, en fait. C'est la possibilité de les mettre aussi les bacs. Parce que nous, il y a une école où là, on vient quand même la suite, une autre Ulysse. Bon, là, à côté de nous, on a le jardin partagé. Donc, ils vont plus venir au jardin partagé que dans cette école-là.
Par contre, il y avait une chose tout à l'heure que tu as dit qui est très intéressante. C'est vrai que chaque année, on a l'impression qu'il faut toujours recommencer. Et c'est assez décourageant, c'est vrai. Mais tu as dit que toi, justement, dans tes ateliers, tu leur apprenais à ce que tout ne meure pas et mettre certainement des aromates, par exemple. Ça pousse d'une année sur l'autre.
Il y a diverses solutions pour ça, en fait. C'est soit effectivement... privilégier des variétés qui vont être très précoces, c'est-à-dire qui vont être là avant l'été, parce que c'est frustrant aussi pour les enfants. Le réflexe, c'est on va mettre de la tomate, mais l'enfant ne verra jamais la tomate au final.
Non, on met des radis, souvent.
Voilà, c'est ça.
On a mis des choses. Bon, ils en ont quand même, à part les tomates ou des choses comme ça qu'ils ont.
C'est
pas.
Ça, mais du coup, on vient conseiller sur les variétés qui vont être dites précoces, en fait, qui vont pouvoir être poussées et être consommées avant début juillet. Et puis après, s'il y a la possibilité d'avoir, donc c'est plus facile dans les collèges et lycées d'avoir un concierge ou quelqu'un qui vient entretenir. Bon, dans les écoles primaires, c'est moins facile. Mais après, on essaye de mettre ça en place, mais c'est encore compliqué. C'est un peu plus ouvrir les écoles, parce que les écoles sont des lieux très fermés. Avec, par exemple, l'été, qu'ils puissent avoir un système de bénévolat, des parents qui viennent entretenir, qui viennent consommer. Alors, il y a des parents qui sont motivés. Le problème, c'est le souci aussi d'autorisation de pénétrer dans l'école.
Oui, parce que ça appartient souvent aux mairies, les écoles maternelles et primaires.
C'est ça.
Et au niveau sécurité, ça impacte.
Nous, c'est la grosse problématique qu'on a. Hein, nous, pendant les grandes, enfin, aussi bien pendant la période scolaire, les quelques vacances, mais surtout pendant la grosse période de vacances d'été, il n'y a personne qui s'en occupe.
C'est pour ça, par exemple, on peut mettre je vais récolter avant l'été et pour pas que ça soit envahi de mauvaises herbes et que ça soit intéressant d'un point de vue pédagogique, je leur conseille de sinon mettre un engrais vert. Quand c'est dans des bacs, c'est différent, mais quand c'est sur un carré potager ou un potager en pleine terre ou même des plus grands carrés hors sol, un petit engrais vert, comme ça, en fait, ça couvre mon sol, ça garde ma terre un peu en vie. Et puis, quand je reviens à l'automne, j'ai qu'à faucher et recommencer des cultures avec des enfants. Les aromatiques sont des bonnes solutions ou des variétés aussi qui sont très peu demandeuses en eau, etc. Donc il y a diverses solutions. En fait, il n'y a pas une solution magique. C'est en fait, il faut s'adapter à l'enseignant, à leurs possibilités, etc. Et du coup, je leur conseille au fil des discussions.
Alors on voit aussi en permaculture, on a tendance aussi, en fin de compte, à mélanger un peu les légumes, les fleurs d'un côté, etc. Quoi, c'est un mélange. Est-ce que vous apprenez ça aussi aux professeurs? Parce qu'on peut faire la permaculture aussi avec des buttes ou autres. Et est-ce que c'est plus rentable au niveau légumes? Est-ce que...
Oui, alors moi je parle d'agroécologie, ça ressemble à la permaculture.
J'appelle ça permaculture,
mais oui, non,
je
ne
suis
mais
pas très douée.
Non, mais c'est très bien, vous connaissez beaucoup de choses. Moi je parle d'agroécologie parce qu'il y a tout la partie permaculture un peu plus liée aux énergies de la terre, aux calories linéaires que je ne pratique pas. Donc là, ce qui est très bien aussi, c'est juste que je ne maîtrise pas. Donc moi je parle d'agroécologie et en fait je parle de potager, de jardinage sur sol vivant. Donc j'apprends ça aux enseignants. Donc c'est simplement, en fait, moi, le sol n'est pas travaillé. Je ne retournerai jamais la terre.
Parce que vous la retournez comment? Juste
avec... On ne la retourne pas.
Pas du tout.
Non, il y a toute une vie dans le sol qui fait très bien pour moi.
Alors, c'est vrai que moi, cette année, dans mon potager, j'ai mis des cartons. Tout l'hiver. Et c'est vrai que quand on regarde, il y en a partout, des petites bébêtes de terre.
C'est pour ça, moi, je mets du paillage toute l'année, que ce soit de la paille, de la tonte d'herbe séchée, du broyat de bois, etc.
On s'est aperçu hier, parce que nous, avant l'hiver, enfin, on avait utilisé toutes les feuilles. Parce qu'il y a, nos jardins partagés, il y a un tas d'arbres qui sont autour. Donc, toutes les feuilles, on avait fait une épaisseur de feuilles sur toutes les surfaces. Et là, on s'est aperçu que, toutes les feuilles se sont désintégrées.
Elles ont été consommées et ça aère la terre, en fait.
Ça aère la terre.
En fait, ça protège le sol par rapport pour garder le sol frais, et ça donne en fait une ressource de nourriture à toute la vie du sol qui va faire les allers-retours. Et en fait, elle va travailler seule. Le problème, c'est que quand on vient retourner, c'est que la couche du dessous,
c'est
censée pas être mise à l'oxygène, est mise à l'oxygène, et inversement, donc en fait, ça tue la vie du sol. Donc, d'année en année, en fait, je vais appauvrir mon sol. Que de ne pas le travailler, de couvrir tout le temps son sol. En fait,
été comme hiver, faut bien le dire.
Un sol ne doit jamais être tout nu.
Voilà, c'est ça.
J'explique comme ça aux enfants parce que ça leur fait rire. Je dis, toi, tu te balades pas tout nu dans la rue, mais ton sol, il a pas envie d'être tout nu en face de tout le monde. Il faut toujours lui mettre une petite couverture. Donc, une couverture l'hiver pour que le sol reste chaud. Et puis, l'été, ben, c'est nous, on se met à l'ombre des arbres quand il fait trop chaud. Ben, la terre de mon potager, pareil, elle a besoin d'ombre. Donc, je viens mettre une couverture. Donc, les enseignants, je leur apprends sur ça. Et l'avantage, c'est que du coup, il y a quand même moins de travail parce que comme mon sol est tout en couvert, forcément, il y a moins de mauvaises herbes qui viennent.
Ça, c'est vrai.
J'ai moins d'arrosage à faire, etc. J'ai pas tout le travail fastidieux du sol, surtout avec des enfants, de retourner. Je le fais plus du tout. Donc voilà, ça facilite grandement leur travail et l'entretien aussi. Donc ça peut permettre que certaines variétés qui sont pas trop exigeantes en eau, le fait de pailler, ben, l'été, en fait, elles vont pouvoir survivre si elles ont que un ou deux arrosages dans l'été. Et quand ils reviennent en septembre, ben, le potager est pas complètement mort.
Mais ce qui n'est pas évident, c'est de faire passer ce message. Moi, je le vois avec les trois personnes qui sont avec nous au jardin partagé, là, qui sont à côté de nous, en bénévole. Ce n'est pas évident de faire passer le message de ne plus retourner la terre.
Mais oui, non, parce que ce sont.
Voilà,
parce qu'ils ont tous, même les jardins qui sont autour. Là,
ou même comme pour utiliser des engrais. Hein. Moi, je vois les personnes âgées ont toujours tendance à passer le motoculteur et à mettre des engrais.
En fait, voilà. il faut faire à côté et pour montrer. Et dans les écoles, c'est ce que je fais aussi. Des fois, quand je leur dis, il faut pas retourner la terre, ils me disent OK. Et puis, bah, quelques jours après, ils me contactent. Ah, ben j'ai contacté le service technique pour qu'ils viennent retourner le sol. Ah non. mais c'est normal. Mais après, du coup, petit à petit, ce que je fais, je dis bah tiens, à la limite, laisse-moi celui-là de côté. On va pas le retourner et tu vas voir. Et en fait, c'est juste en montrant, ils disent ah mais c'est dingue. Ils disent mais en fait, ton sol, il a une texture, il est de meilleure qualité que le sol que j'ai retourné. Je dis bah oui, parce qu'en fait, tu l'as bouleversé. C'est une structure, ça se lie. Avec les enfants, je leur montre avec les doigts de la main. Mm-hmm. Je dis un sol, c'est comme ça. Quand on vient retourner, on vient casser en fait. C'est ces doigts qui se tiennent. Que quand je viens pas le retourner, ben ces doigts ils se tiennent encore. Donc les enfants, eux, ils sont faciles à convaincre. Les adultes un peu moins. Mais les adultes, je leur montre. Je dis test, tu verras. Et si je me suis trompée, si tu trouves que c'est pas moins bien, tu feras comme tu as envie. Et généralement, après, ils continuent à faire comme ça.
Mais c'est très, très difficile, hein, le sol, hein, parce qu'on ne connaît pas ce qui peut lui manquer comme nutriments, etc. Oui. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font analyser leur sol, justement, pour pouvoir alimenter dont le sol a besoin.
On peut le faire analyser, faire des petits... On prélève des échantillons, comme dans un sachet, on envoie des labos. Après, il y a d'autres petites techniques pour connaître la texture du sol.
On attend.
Et qui est pédagogique, en plus.
Comment ? Vas-y, Lou.
Les plantes indicatrices, en fonction de quelle plante pousse sur tel sol, ou même de la couleur de certaines sols, de certaines fleurs, on a des indications sur le pH de la terre, sur le taux d'azote ou le taux de tel nutriment.
C'est ça, exactement. Ouais, observer du coup les plantes indicatrices, etc. Pour savoir aussi la texture de son sol, si c'est un sol plutôt argileux, si c'est un sol plutôt qui tire vers sable. Bon, ici on n'a pas trop le cas. Il y a le test, et on peut le faire avec les enfants, c'est rigolo, le test du boudin. Bon, en fait, on vient faire un trou sur une dizaine de centimètres, on va prélever une poignée de terre et du coup, on va essayer avec cette poignée de terre de faire un boudin. Donc, entre mes mains, bah, je prends un morceau de terre et je frotte. Si ça se forme pas du tout, que ça reste en plein petits morceaux, c'est que c'est une terre très sableuse. Si ça commence à s'agglomérer, que j'arrive à faire un boudin, mais que quand j'essaie de le tordre pour faire un anneau, ça casse assez facilement. Là, on va être sur une terre qu'on appelle argilo-humique, donc c'est-à-dire assez équilibrée. Là, c'est le meilleur.
C'est le meilleur.
Et puis après, si on a un boudin qu'on fait comme ça et on arrive à faire un anneau avec, c'est qu'on a une terre super argileuse. Ça, quand on fait du potager, on aime moyennement.
On aime moyennement parce
mais
que
rien n'est. On peut, faut pas être fataliste. Ma terre, elle est trop sableuse ou elle est trop argileuse, alors ça va pas être dans un claquement de doigts. Mais on peut modifier la structure, justement en apportant du compost, en apportant du broyat, etc. Après, ça prend plusieurs années, mais on peut changer la texture d'un sol, c'est pas foutu, disons.
Oui, c'est compliqué.
Quel type d'engrais naturel est le mieux à faire, justement, pour...
Ça dépend des périodes de l'année, ça dépend justement de son sol. En fait, on peut apporter du compost... On peut même éviter de carrément faire du compost. Moi, c'est ce que je fais dans mon jardin. Hein. Je mets directement mes déchets de cuisine directement dans le potager comme ça.
Ah, d'accord, oui.
C'est très bien. Bah, oui, parce qu'en fait, la nature, dans une forêt, c'est ce qui se passe.
Oui, c'est vrai, oui.
Les feuilles, elles tombent, elles nourrissent directement le sol. Bah, du coup, en fait, plutôt que moi de faire du prédigéré, je le mets directement. Là où je fais du compost, c'est pour faire mon terreau de semis. Voilà. Après, il y a les engrais verts. Donc, les engrais verts, par exemple, le plus connu, il va y avoir la moutarde, il va y avoir la facélie. Donc ça en fait les vesses aussi, donc ça en fait c'est que je vais semer une plante, elle va pousser, donc ça va faire ce qu'on appelle un couvert végétal, donc ça c'est super pour l'hiver, ça couvre mon sol. Et puis avant que ça monte en graines, parce que sinon après
oui, ça
va se ressemer tout seul, je fauche ça, je vais laisser sur place, parce qu'il y en a que j'ai vu faire, il fauche et ensuite il retourne la terre, et là je fais mais non, faut pas, on le laisse sur place, donc ça va faire un paillage, donc voilà.
Alors moi je vais vous dire, moi mon mari, on a un compost, il étale le compost et oui. Après il retourne la terre et je râle tout le temps, donc maintenant on a partagé le potager en deux, lui fait sa partie bah, et moi j'essaie de faire ma permaculture,
c'est génial,
ça fait une expérience, oui.
Si vous allez pouvoir comparer, c'est très bien. Ouais. Voilà, donc il y a les engrais verts. Après, ponctuellement, donc pas trop souvent, hein, mais, et pas tous les ans, on peut apporter du fumier de cheval, c'est plutôt équilibré. Oui. Mais il ne faut pas trop donner, parce qu'en fait, il ne faut pas surnourrir sa terre. Donc il faut observer. Du coup, on le verra au comportement des petites bêtes, des vers, etc. On constatera aussi aux plantes. On a ce qu'on appelle les fins d'azote. Ça veut dire qu'en fait, on a apporté trop de carbone à son sol. Mm-hmm. Du coup, en fait, tout l'azote du sol a été consommé. Et ça, on le voit à la réaction des plantes. Par exemple, c'est des plantes qui vont réussir à beaucoup moins prendre dans mon sol. Donc là, à ce moment-là, je vais arrêter de mettre de la matière sèche, donc par exemple du broyat de bois, et j'ai plus mettre une matière organique plutôt humide, donc un compost assez riche ou de la tonte d'herbe qui n'a pas été séchée, un peu fermentée, etc. En fait, il faut toujours équilibrer. Un sol, c'est du carbone, de l'azote, et il faut trouver, donc alterner entre matière très sèche et matière très humide. Et ça, bon, là, comme ça, c'est très complexe, mais avec les enfants, en fait, on le voit. On n'utilise pas forcément ce langage-là, mais alors apprend, en fait, cette vie du sol, que c'est de la chimie, que c'est de la physique, qu'il y a des êtres vivants. Et du coup, en fait, enfin, voilà, ils comprennent que c'est plus que de la terre, voilà. Ils comprennent que c'est plus que les bases, genre, ben, on met de l'eau, du soleil et ça pousse. Ben non, c'est plus complexe que ça. Et puis, du coup, je pense, enfin, j'espère, je verrai à terme que c'est des enfants qui seront des futurs adultes beaucoup plus sensibles à ça. Et c'est important, en fait, de connaître le fonctionnement d'un sol, parce que tout est lié à ça. Et on ne l'apprend pas assez, malheureusement.
C'est vrai, oui, tout à fait. Bon, c'est vrai que l'éducation nationale, actuellement, essaie quand même de dire que c'est un outil pédagogique, que ça forme des éco-citoyens, que ça permet aux enfants de faire attention à la nature. Et on le voit bien avec le problème du climat, du changement climatique. Alors moi, j'ai relevé qu'il y avait 1 à 2% des jeunes qui sont anxieux face à ce changement climatique. Alors comment ne pas les affoler et leur expliquer ces changements. Comment fais-tu quand, lors d'un atelier, un enfant te pose la question, oui, mais avec le changement climatique, moi, voilà, je suis très anxieux, est-ce que je dois vraiment avoir peur ? Comment tu leur expliques ?
C'est compliqué parce que... c'est un sujet très compliqué. Parce qu'à la fois, je ne veux pas mentir.
Oui, voilà, c'est ça. Oui,
je ne veux pas mentir sur la réalité de ce qui se passe. À la fois, je ne veux pas les angoisser non plus. Donc, c'est plus leur dire, bah oui, il y a ce réchauffement climatique. Oui, il y a des choses qui changent et qui vont continuer à changer. Ça, malheureusement, il est un peu tard pour l'endiguer complètement. Mais c'est plus leur dire, écoute, t'es jeune et toi, t'as le super avantage de pouvoir plus se préparer ce qui va se passer après. On a parlé beaucoup du monde d'après. D'un point de vue politique, mais ce terme était sorti avant d'un point de vue justement tout ce qui était réchauffement climatique, agriculture. Donc se dire le système actuel ne fonctionne pas, comment on va faire pour que après les générations futures ne refassent pas les mêmes bêtises. Donc moi alors je l'explique pas comme ça, mais j'ai plus ce discours là avec les enfants en disant bah oui c'est en train de se passer, oui c'est pas cool, oui c'est pas rigolo, oui ça fait peur, mais du coup, t'inquiète pas, moi justement, notamment avec le potager, je vais t'apprendre à comment te débrouiller tout seul, comment faire ta propre nourriture, etc. Et comment faire des petites actions qui vont te permettre de préparer ton futur et pas refaire ce que nous, on a fait comme bêtise. Après, je leur mens pas sur les réalités. Je pense qu'il faut pas leur mentir, je pense qu'il faut leur dire. Parce que justement, on a été au départ dans l'éducation à l'environnement vachement moralisateur, donc ça a donné l'effet genre bon, on en a marre, on s'en fiche, de toute façon c'est foutu. Après on a été peut-être trop non mais tout va bien
tout
aller.
Va bien, oui.
Non, et c'est mentir. Enfin, je suis désolée, hein, mais c'est mentir. Tout ne va pas aller sur des roulettes. C'est juste qu'il va falloir apprendre à s'adapter. Et moi, c'est ce que je fais avec eux. C'est apprendre à s'adapter en soufflant en disant on peut s'adapter, on a cette capacité là et je vais vous apprendre à comment faire.
Et en dehors du potager, quelles petites actions tu leur dis de faire? Bon, de trier les déchets évidemment.
Je leur parle beaucoup d'alimentation.
D'alimentation, bien sûr.
L'alimentation durable, ouais. Je leur parle beaucoup de ça. Du coup, par le biais du potager, mais pas que. Sur l'alimentation transformée, d'où viennent nos aliments, etc. Donc, prendre conscience par rapport que c'est mauvais pour sa santé et que c'est mauvais pour la planète. Sur les jeunes enfants, c'est bête à dire, mais ça passe beaucoup par la nourriture.
Par la nourriture, oui. Mais même chez les grands.
Mais
hein.
Chez les grands aussi, mais voilà. Et du coup, en les sensibilisant par ce biais-là, ça marche plutôt pas mal. Et en fait, c'est intéressant parce que via l'alimentation, en fait, on peut aborder tous les thèmes.
C'est ça.
Tous les thèmes et qui leur parlent facilement et qui sont concrets, qui peuvent observer. Donc, je les sensibilise pas mal par ça. Et après, simplement, alors, moins maintenant au CPIE, parce que mes missions sont moins sur ça, mais auparavant, simplement, me promener avec eux dans la nature. Enfin, promener, je travaillais quand je le faisais, mais pour eux, c'était une balade. Mais simplement, se balader, dire, oh, tiens, regarde ça. Oh, regarde la feuille, waouh, elle est géniale. Oh, regarde ça.
Moi, je les ai regardés, les arbres à l'envers.
Ouais, ça, c'est top. Ils adorent. C'est très rigolo. Mais voilà, plus observer, être juste dans la nature et pas dire, oh là là, faut que tu fasses attention à ci, à ça. Juste, je suis dans la nature, je suis bien. Et oh, regarde comme on est bien. Regarde comme c'est génial. Et créer ce lien affectif. Et je pars du principe que quand le lien affectif est créé, quand on aime quelque chose, on a envie que ça dure.
Bah, d'apprendre ce que c'est.
Et d'apprendre et surtout de le protéger. Voilà, on aime nos enfants, on les protège. On va pas faire n'importe quoi avec. Ben, j'aime la nature. Où j'aime mes parents, parce que c'est un peu, je leur dis, c'est notre mère en fait. Je dis, bah, t'aimes tes parents, tu vas pas leur faire du mal, t'aimes la nature, bah, tu vas pas lui faire du mal. Et en créant ce lien affectif, du coup, naturellement, sans avoir à avoir un discours moralisateur, juste en créant du lien affectif, naturellement, en fait, ils feront les choses.
Et yes. Quelles sont les questions qu'ils posent le plus, les enfants, quand tu fais un atelier ou même quand tu parles de changement climatique?
Dur.
Bon, bah, on va changer de question.
Ouais, je serai pas trop. Je serai pas trop parce que finalement. Enfin, en fait, ils posent pas tellement de questions. C'est plus eux, ils donnent leur avis généralement. Et c'est ça que je trouve ça intéressant. En fait, parce qu'on en parle beaucoup. Donc, en fait, ils me posent peu de questions. C'est plus ils me disent, ben voilà ce que je pense, moi. Et c'est...
Alors, qu'est-ce qu'ils pensent, justement? C'est ça qui est intéressant.
Ben, oui. Qu'est-ce qu'ils pensent qu'est-ce qu'ils pensent? Après, ils me parlent beaucoup des choses qui sont circulées par les médias. Hein. Ils me parlent beaucoup des ours polaires. Ils me parlent beaucoup de la forêt, des orangs-outans, tout ça.
Bah, puis ça, je crois aussi que c'est dans les cours des écoles,
oui,
ça,
dans
de toute façon,
le
cours général. Hein.
Ouais. Dans le programme, ça y est, ouais. Donc, ils me parlent plus de ça et ils me parlent, voilà, ben bah, oui, ben bah, on le voit ou on nous le dit, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de le voir eux, mais ben bah, oui, qu'il y a des animaux qui disparaissent, qu'il y a moins d'insectes, etc. Donc, voilà, ils me le disent, ils s'interrogent, mais c'est pas une question directe, c'est plus, ben bah, ouais, c'est bizarre en fait. Mais après, non, ils posent pas tellement de questions parce qu'en fait, je pense qu'on leur donne plein d'infos tout le temps, partout sur ça. C'est plus, voilà, ils en parlent, ils disent, ben bah, oui, mais en fait, je trouve ça triste et moi j'ai envie de les protéger, je trouve ça dommage, mais c'est plus ça. Mais du coup c'est bien, en fait ils partent d'un constat, bah c'est comme ça et moi je trouve ça dommage.
Moi je vais poser une question à Lou, toi qui es beaucoup plus jeune que nous, n'est-ce pas, que moi et Jackie, oh, voilà. Vous les jeunes, à votre niveau, qu'est-ce que vous pensez tout ça, le fait de faire apprendre le potager, le jardinage aux enfants, de parler du changement climatique, est-ce que entre potes vous en parlez aussi de tout ça?
Eh ben c'est absolument essentiel. Je suis ravi d'entendre tout ce que fait le CPIE de l'Oise. Et en parallèle, bah, entre potes, ça dépend complètement des potes en question. J'ai des amis un peu partout, répartis un peu partout sur le territoire et dans des milieux très différents. Et ça dépend complètement. Il y en a qui, alors tout le monde, il y a plus de contestation sur le fait que la nature est complètement impactée par l'activité humaine. Ça, il n'y a pas de contestation là-dessus. Mais par contre, sur la façon dont on le prend, il y en a qui font du déni complètement. C'est-à-dire quand j'aborde le sujet, avec que ce soit sourcé, documenté, avec des références, etc. Au bout d'un moment, par exemple, j'ai une amie qui m'a dit « Non mais attends, stop, je peux pas, parce que sinon je vais partir en crise d'angoisse. »
Ah oui, oui, ça angoisse, c'est ça.
Ah ouais. Bah, ça angoisse énormément. 1-2%, j'ai été surpris du chiffre.
Oui, chez les jeunes, les enfants, réellement. Je pense que les jeunes, après les ados, etc., ils sont peut-être un peu plus, effectivement.
Oui.
Ils se posent plus de questions aussi.
Et oui, parce qu'on se le prend en pleine figure et que maintenant, dans les médias, par exemple, on est passé de Covid à Ukraine et on parle absolument pas de tout ça. On parle absolument plus des sujets cruciaux comme...
qu'on est toujours dans la peur quand même.
On est toujours dans la peur. Et les médias ne promeut absolument pas ce que fait, par exemple, le CPIE, par le fait d'apprendre comment prendre l'autonomie au niveau national ou au niveau local avec des potagers et jardins, mais au niveau national en reprenant notre autonomie alimentaire et en adaptant nos pratiques agricoles à l'évolution climatique future. De mon côté, je fais partie d'un mouvement scout qui s'appelle les éclaireuses et éclaireurs de la nature. C'est un mouvement scout le plus petit de la Fédération française du scoutisme. On est environ 1800 adhérents avec une petite trentaine de groupes locaux répartis sur le territoire. Et on a un gros axe écologique, on mange quasi intégralement végétarien, on fait le strict minimum de déchets et on est locavore au possible. Avec aussi une proposition spirituelle, c'est-à-dire dans le projet pédagogique du mouvement, va s'intégrer des temps spi. Chaque jour dans le camp scout, il y a des temps spi de un quart d'heure à une demi-heure selon les âges et les groupes. Où on fait de la gestion des émotions, des pratiques méditatives, des exercices de sophrologie, apprendre à reconnaître, à accepter, à exprimer ses émotions, à apprendre les éveiller à l'empathie, à la pleine conscience. Et tout ça, notamment, on le fait toujours en nature, puisque
en pleine nature. C'est comme le yoga, en pleine nature, on ne ressent pas la même chose que quand on est dans une salle.
Complètement.
Voilà. Alors vas-y, continue.
Mais par exemple, il y a un groupe à Paris et c'est compliqué quand on prend un RER jusqu'au bout de la ligne pour trouver le moindre petit bois. Mais voilà, c'est un sujet extrêmement présent chez les jeunes qui est pris d'une façon complètement différente. Et il y en a qui se perdent aussi bien au fin fond du Larzac en se disant je vais élever un troupeau de chèvres et faire quelques fromages et le vendre et faire un réseau de solidarité comme ça. Aussi bien, il y en a qui se disent je vais profiter en vivant à Paris,
mais
en faisant tout ce que je peux.
De plus en plus, on retrouve ces marchés solidaires. De plus en plus, oui, c'est vrai.
C'est la meilleure façon de vivre en alternatif, plus que l'altermondialisme. Faut faire de l'alternative au niveau local, que ce soit des monnaies locales pour éviter de se prendre le système économique.
Oui,
qui
ça se fait dans les petits villages, ça se fait la monnaie locale. Hein.
Mais même dans les villes, à Lyon, il y a une monnaie. Une monnaie locale qui s'appelle Soudici, par exemple. Ah, mais sinon, le plus efficace, c'est le troc. Hein. C'est le troc, les échanges, créer un réseau de solidarité. Dans les écolieux,
c'est ce qu'on fait avec le potager, avec les voisins.
Dans les écolieux, les tiers-lieux et les choses comme ça, y a souvent cette volonté d'autonomie au niveau alimentaire, au niveau des services, au niveau du social.
La complexité entre le rural et l'urbain.
Et l'urbain, oui.
C'est ça aussi.
Et l'autonomie se trouve essentiellement par le réseau de solidarité autour, avec le tissu associatif, avec les alternatives locales.
Mais est-ce que on voit la complexité entre le rural et l'urbain, et puis bon, on voit que dans l'urbain, malheureusement, il y a quand même une demande de plus en plus de potagers, de jardins partagés, mais il y a aussi la problématique d'espace.
C'est-à-dire qu'on demande de plus en plus à mettre la nature...
Est-ce que ça ne serait pas aussi, justement, par l'intermédiaire des écoles et autres,
Juste un petit truc, de plus en plus, on veut mettre la nature dans les villes. Là, dans les Hauts-de-France, on a vu que la région a mis en place des arbres, a planté des arbres. Donc, dans les villes, on essaie quand même un petit peu. Mais bon, c'est pas grand-chose. Mais on voit qu'on...
Tout à l'heure, tu évoquais le fait de trier des déchets.
Oui.
C'est gentil. C'est mignon.
C'est tellement aberrant
de dire ça.
Non, mais je
suis
tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on demande aux citoyens de faire beaucoup de choses.
On fait culpabiliser les citoyens, alors que la société ne permet pas d'avoir un mode de vie écologique.
Oui, mais les avions ne polluent pas. On va passer à la nature.
Juste pour répondre pour le fait qu'en ville, ils sont très demandeurs. C'est marrant que vous en parliez. Justement, comme jeudi, vendredi, j'étais en séminaire sur Paris. On a visité... En fait, il y a une association qui s'appelle Veni Verdi, qui est spécialisée dans le potager urbain. Et en fait, ils ont mis... On est monté sur le toit d'une école. Ils ont mis des potagers
génial,
sur les toits des écoles. Et en fait, du coup, leur but, c'est d'essayer de végétaliser tous les toits
de Paris.
Ils en ont beaucoup, mais ils ont des toits. La surface, c'est énorme. Et c'est en train de se faire.
Après,
et il y a le projet Oasis aussi dans les cours pour végétaliser les cours d'école dans Paris.
Oui, nous, on y a déjà pensé aussi.
Il y a aussi la problématique. À chaque fois, moi, je le vois encore, à chaque fois qu'il y a une construction d'une école, on bétonise d'abord.
Oui.
Et ça, c'est le problème.
Et sur toutes ces solutions, notamment en milieu urbain, il faut faire attention à la verdure, la communication verte. Par exemple, il y a une entreprise qui permet à plein d'entreprises de se dire on est super écolo parce qu'on met trois ruches sur le toit du siège social. Et en fait, c'est une entreprise qui a un peu ce monopole sur la mise en place de ruches sur les toits, et ils mettent une seule espèce d'abeille. Et donc, de la nécessité de la diversité tout à l'heure. Et c'est essentiel aussi. Quoi. Donc, ça n'a quasi aucun impact au niveau écologique. Et il faut s'occuper parce que il y a beaucoup de communication verte comme ça qui est faite Le plus énorme, c'est le logo de McDo qui est passé du rouge au vert sans que personne ne se pose la question comme ça.
On va parler de la nature, hein, donc on vient d'en parler un petit peu. Hein, notre regard se tourne de plus en plus vers la nature, vers le monde qui nous entoure. Alors pourquoi ce besoin de se rapprocher de la nature, hein, pour aller chercher une source d'inspiration, ressources nécessaires pour notre bien-être, mais quoi d'autre pour ces enfants, est-ce qu'il serait bien aussi peut-être de les sortir plus dans des fermes pédagogiques, dans des cueillettes, pourquoi pas, hein, pour leur curiosité, ou faire des pique-niques. Quels sont les endroits qui pourraient faciliter leur apprentissage face à la nature, et la CPIE fait-elle des vidéos, admettons, sur le monde agricole? Ça peut être très intéressant.
Alors, on ne fait pas de vidéo.
Ah, ça va falloir y penser.
Ça va peut-être venir. Oui. Là, il y a tout un noyau d'équipe assez jeune, assez dynamique, où on a plein de mille idées. Après, comme on est très demandé, on n'a pas le temps de tout. Mais oui. Après, les lieux, en fait, parce qu'il y en a plein qui disent « Bah oui, moi, je suis en plein cœur de Paris, vous êtes bien gentils, mais je n'ai pas le temps, je ne peux pas aller en forêt. » quoi. En fait, le moindre petit carré de nature peut suffire, en fait. Alors oui, c'est sûr que c'est mieux d'aller en pleine forêt que d'aller dans un parc au milieu de Paris, mais si c'est que ça, ma ressource de nature, bah tant pis. Mais en fait, je me force, parce qu'il y en a où c'est ça, mais après, en fait, j'aurais ce besoin, mais il faut y aller tous les jours. Minimum une demi-heure, une heure, tous les jours, j'y vais, je me pose, et en fait, c'est juste cette idée de ralentir, en fait. Parce qu'on a, nous, cette vie, ces adultes très speed. Le problème, en fait, c'est que petit à petit, on s'aperçoit, on impose ce rythme à nos enfants.
Tout à fait.
Et ça a créé plein de soucis chez eux. Donc, moi, je le vois, ça fait plusieurs années maintenant que je travaille dans le milieu de l'éducation, et j'ai vu l'évolution des enfants, et c'est très, très inquiétant. Ils sont anxieux.
Bah, hyperactifs aussi.
Oui, mais c'est parce qu'ils se calquent sur nos mouvements c'est à ça. Nous. On est tout le temps comme ça. Donc, en fait, c'est simplement... ralentir, en fait, changer nos manières de faire, juste prendre le temps. Prendre le temps, je me pose dans un parc ou dans une forêt ou dans une prairie ou dans un carré de pelouse, j'en sais rien, mais du moment qu'il y a au moins une fleur, je me pose et juste, voilà, j'observe, je fais rien. Rien que ça, si on leur permet de ne rien faire, parce qu'on est des sociétés qui ne supportent pas ça. Laissez vos enfants ne rien faire dans la nature et vous verrez une différence juste incroyable.
Tout à fait. Alors l'émission se termine, donc on va prendre le temps d'écouter Lou.
Eh ben, nous remercions chaleureusement nos invités. Merci à toutes et à tous. Cette émission Pédalo Rando sera diffusée pendant le mois de mars, le vendredi 11 mars à 19h, le lundi 14 mars à 16h30, le samedi 26 mars à 17h et le mercredi 30 mars à 2h du matin. Le thème du mois prochain sera Parcoursup 4 ans après.
Pourquoi ce petit rire?
Eh bien, nous en parlerons peut-être
la prochaine fois.
Merci à Luc pour la technique. Chers auditeurs, chères auditrices, si l'éducation des enfants et l'avenir des enfants vous intéressent, n'hésitez pas à nous rejoindre et venez donner votre opinion à l'antenne. Contactez-nous par courriel ou sur le site RVM à www.radio-valois-mulsien.fr.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir tout le monde, merci.
Ils sont marrants cette année. C'est difficile de deviner dès la rentrée lequel se fera arrêter pour les scouts qu'il aura piqué, lequel sera incarcéré pour avoir trop dealé. Moi en bon prof, je suis préparé. Un peu de maths et de français, du kickboxing, du karaté. Tant pis pour la géographie, ceux qui connaissent de l'Italie, c'est juste vaguement les spaghettis et Rocco Siffredi. Au programme de cette année, en français faudrait arriver à lire tout un livre en entier. Mais même Darman et Marc Lévy, y'a plus de 100 mots de vocabulaire. On sera toujours à lire la préface même après l'hiver. Et mon voisin me voyant me dira bande de feignants. Alors vous êtes déjà rentrés, vous savez pas ce que c'est de bosser. Avec vos semaines de 20 heures, vous bossez bien moins qu'un facteur. Et dire que je paye tous vos congés et puis vous êtes...